Cuisin, ombre sanglante, la bohémienne de Trébizonde ou un sequin par tête de chrétien, mœurs musulmanes. Le prince Potemkin, si célèbre dans les annales de Saint-Pétersbourg, était à son plus haut degré de faveur auprès de la grande Catherine II, tsarine autocrate de toutes les Russies. Il avait puissamment contribué par son génie à agrandir les états de cette illustre princesse, surtout du côté des frontières limitrophes de la Turquie, puissance qui redoutait d'autant plus un envahissement général qu'elle se voyait encore attaquée du côté de la Hongrie, de la Valachie par les armées de l'empereur d'Autriche Léopold. En 1739, la guerre déployait donc alors dans ces contrées toutes ses fureurs, et la sublime porte, assaillie de toutes parts, tremblait pour la dignité et la gloire du croissant. Enfin, après des assauts, des sièges multipliés, des combats opiniâtres, le grand seigneur conclut un traité de paix avec la redoutable impératrice, et plus conséquemment, n'ayant plus qu'une puissance à combattre, défendre l'honneur de ses armes avec plus d'avantages. Le principal théâtre de la guerre avec les impériaux s'était donc reporté tout à fait sur les frontières de la Dalmatie, non loin de Raguse, et le sang coulait depuis plusieurs campagnes entre les janissaires du sultan et les troupes autrichiennes, avec un acharnement dont gémissait l'humanité. Mais comme notre plan ne fut jamais de tracer d'un style politique de vastes plans de campagne ou de nous occuper des grands intérêts des princes de l'Europe, nous n'irons pas plus loin dans ce préambule et nous éviterons de nos plumes ces matières profondes pour ne puiser dans ces hostilités entre les Turcs et les Autrichiens qu'un épisode qui nous paraît devoir inspirer le plus grand intérêt. On sait que la Bohème abonde en ces sortes de diseuses de bonne aventure, de pythonisses modernes, qui, à l'instar des fameuses sibylles de la Grèce, tirent des horoscopes, prétendent connaître l'astrologie judiciaire, et, puissantes de leur art divinatoire, lisent tout dans l'avenir, excepté leur destin. Généreuses envers leur siècle, elles ne se bornent pas à ne faire jouir que leur pays des bienfaits de leur prétendue sorcellerie. Toutes les contrées de l'Europe, c'est-à-dire l'Égypte, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et la France, connaissent tour à tour ces oracles péripatéticiens qui, d'un pied chaussé d'un élégant brodequin, la tête couverte d'une mantille noire, visitent toutes les nations. C'est une de ces bohémiennes, nommée Talmira Liska, qui sera l'héroïne de cette nouvelle. Quoiqu'elle fût née à Trébizonde, le père de Talmira Liska était chrétien. Ne faisant pas d'affaires fort avantageuses en France dans son état d'orfèvre, il était venu d'abord s'établir avec sa femme au faubourg de la Péra, à Constantinople. Là, Talmir passa son enfance dans les mœurs musulmanes, bien qu'elle se trouvât au milieu d'une foule d'Européens, commerçants de toute espèce. Elle fut donc entièrement élevée dans les usages et les rites de la religion du mahométisme et reçut en naissance ce nom oriental qu'elle porte ici et qui signifie en langue turque « charme des yeux ». Suivant l'usage des Orientaux et surtout des Asiatiques, de donner toujours aux femmes des dénominations allégoriques. Talmir, même dans ses plus jeunes ans, justifiait à tous égards son nom, car la nature, dans ces climats si favorables d'ailleurs à l'imagination, n'avait jamais rien produit de plus séduisant. Assemblage étonnant de grâces et de charmes, mélange des contraires les plus piquants, la charmante Talmir joignait au caractère de la beauté orientale la physionomie vive et fine d'une jolie Parisienne. Et par un contraste plus rare encore, si ses yeux étaient d'un beau noir de velours, Si ses sourcils d'ébène traçaient deux arcs majestueux sur son front d'ivoire, sa chevelure du plus beau blond doré tombait en boucles épaisses sur ses épaules d'albâtre. Le corail le plus pur ornait le contour de ses lèvres fines et gracieuses, et tente de perles meublait sa bouche fraîche comme le calice d'une rose. Son père, sa mère ne virent pas tant d'attrait naissant sans en éprouver un secret orgueil. C'était leur unique enfant. Mais au lieu de lui consacrer toute leur tendresse, au lieu de lui donner une éducation convenable à leur fortune et de l'élever dans la religion de ses pères, ils commirent non seulement la faute impardonnable de la soumettre et de l'habituer aux lois des fakirs et du prophète, mais encore ils se proposèrent, dans d'odieuses spéculations, de la vendre au sérail de quelques grands séphis ou vizirs pour la somme de quelques milliers de sequins. Ils lui firent donc subir une opération égyptienne dont les belles esclaves de la Géorgie, de la Circassie, de Memphis et d'Alexandrie sont généralement victimes dans leur enfance avant d'être mises à l'encan dans un âge plus avancé au bazar du Grand Caire dans un état complet de nudité. Le lecteur est probablement curieux de connaître la nature de cette opération au moyen de laquelle les Arabes, les musulmans et les Égyptiens s'assurent des prémices d'une jolie femme avant d'en faire l'acquisition. Il désire indubitablement savoir comment il est possible de se fier en aucune manière à la vertu, peut-être un peu fragile, du beau sexe, d'acquérir la certitude, par des preuves matérielles et irréfragables, que les baisers de Séphir n'ont jamais effeuillé le bouton virginal. Quelle imagination assez bizarre, assez recherchée, aura pu, se dit-il déjà, trouver le moyen de conserver intact ce trésor idéal auquel les peuples de l'Asie attachent tant de prix et dont les habitants des rives de la Seine font d'ailleurs si peu de cas? Bon, en vérité, j'ignore moi-même la manière de le lui apprendre. Ce secret voluptueux, ce pretium virginei floris, dont la pudeur de ma plume ne sait encore qu'à l'expression gazée faire ici la singulière révélation. Quel biais vais-je employer? Voyons, essayons ce tour de force littéraire et sacrifions quelques bienséances enfantines à l'intérêt de cette histoire. Talmir avait donc à peine atteint sa cinquième année que, pendant une nuit qu'elle était plongée dans un profond sommeil, sa mère, accompagnée d'un praticien, lui lia d'abord ses petites mains innocentes et, portant une aiguille meurtrière au trône imparfait de la pudeur, tous deux ils en fermèrent l'entrée au moyen d'une soie gommée et préparée dont les hommes de l'art se servent pour toutes les coutures de ce genre, en ayant soin toutefois de laisser un étroit passage aux besoins naturels. C'est ainsi qu'en Asie, on s'assure de la chasteté des femmes, et leur honneur y est, dès l'enfance, sous la sauvegarde d'un fil tutélaire qu'il faut nécessairement trancher au moment où l'amour veut jouir de tous ses droits. La douleur passée, Talmir se livra aux jeux ordinaires de son âge. Mais elle devait bientôt essuyer un assaut plus sensible. Sa mère, ou plutôt une marâtre odieuse, car elle a déjà cessé de mériter ce tendre et respectable nom, la vendit en beau denier comptant un jeune et opulent cadir d'Andrinople, espèce d'Alcibiade voluptueux, qui dans ses fréquents voyages à Constantinople et ses allées et venues au faubourg de la Péra, parmi les chrétiens, avait soudain été frappé des hautes espérances que donnait la beauté naissante de Talmir. Et épris de ses charmes dans ce bel avenir qu'il se promettait, avait voulu augmenter ses provisions d'amour de cette précieuse acquisition. Talmir Aliska était encore trop jeune pour sentir la perte qu'elle faisait dans l'affection de ses parents. Ce ne fut qu'à l'époque délicate où les lys et les roses se couvrirent en elle des premières rosées de la nubilité qu'elle sentit ainsi qu'une nouvelle Galatée, une autre vie, succédait à l'insignifiant de ses premiers ans. Lorsque sa raison, cultivée par les maîtres de tout genre qu'on lui avait donnés dans le harem du Cadi, lui fit comprendre que d'indignes parents avaient trafiqué de sa personne et de ses attraits, dans un temps où sa faiblesse et sa naïveté devaient inspirer le plus tendre intérêt, elle conçut alors contre une haine implacable et prit la ferme résolution de tromper toutes les spéculations galantes du Cadi et de se livrer au dernier de ses gardes plutôt que de lui conserver une fleur dont son peu de délicatesse et ses systèmes vénaux la rendaient indigne. Le brillant et amoureux Cadi ne laissait pas, de son côté, de tout prodiguer à cette belle vierge pour toucher son cœur. Parure magnifique, simar enrichi de rubis et des plus belles perles de l'Orient, voile brodée d'or et de diamants, fête, repas splendide, carreaux somptueux, balai dans ses petits appartements, esclave, parfum, concert à la manière d'Europe, danse, bain voluptueux et plaisir de toute espèce, Olmasis Kipsan, c'était le nom du Cadi, n'épargnait rien pour se concilier les bonnes dispositions de sa charmante sultane favorite, et n'attendait enfin qu'un moment favorable pour lui jeter le mouchoir. Talmir, loin de prendre le change sur le motif de tant d'ardeur et de prévenance, s'en trouvait au contraire piqué, humilié, lorsqu'elle songeait que, destinée comme une vile propriété au lit d'un maître absolu, elle n'était qu'une victime parée sur l'autel d'un sacrifice, et qu'aimable ou odieux, elle devait se trouver honorée d'une préférence qui n'était au fond qu'une marque de servitude. Espagnole par ses sentiments de fierté, Roxelane par l'indépendance de son caractère, elle jure de s'affranchir de cet humiliant esclavage au péril même de sa vie et de dérober à l'amour mercantile du prince musulman un premier baiser seulement dû à l'amour libre. D'abord, elle veut associer à ses hardis desseins quelques odalisques qui, timides, habitués à leur chaîne, à leur éternelle oisiveté, n'ayant point la force de secouer les pavots du sérail, l'ont encore moins de partager une entreprise aussi téméraire. Trois jardiniers seuls, français d'origine et attachés aux orangeries de la mosquée, sourit à ces propositions. On sait que, comme l'a dit fort élégamment un poète toulousain, l'ère de la servitude est mortelle aux Français. Le mot « l'espérance de la liberté » font palpiter leur cœur généreux. L'idée encore d'être surpassés en courage par une femme, en les couvrant de honte, les enflamme à la fois de la plus vive ardeur. Et dussent-ils courir le danger d'une mort certaine par le pal le plus douloureux, ils ont prêté serment, sur leur honneur et sur leur religion, de confier leur destinée tout entière à l'adresse de la belle Talmir. La nuit qui fut fixée pour la commune évasion fut celle qu'avait également choisi le passionné Cadi pour le triomphe de son amour et de ses droits tyranniques. Jamais sérail dans Orient, depuis les satrapes fastueux de Sardis, sous le grand Cyrus jusqu'au règne de Soliman, n'avait étalé tant de somptuosité. Si en effet Talmir portait des chaînes, elles étaient d'or, et c'était plutôt un sceptre qui la faisait régner dans ce temple, sur son amant et sur toutes les autres femmes, que la situation d'une esclave chrétienne tirée du sein de basse extraction. Un festin délicat avait eu lieu. Les lumières avaient été multipliées. Des nègres avaient apporté Encore de riches présents à notre héroïne. Un boudoir enrichi de tout ce que le goût et la volupté peuvent créer dans leurs galantes recherches avait été préparé par les soins du garde des eunuques, et tout annonçait à Talmir que sa personne devait être obtenue en cette nuit même au mépris de tous les sentiments particuliers de son cœur. Cette pensée ne faisant qu'accroître son dépit, Talmir, dis-je, voyant déjà dans son imagination effrayée le fatal mouchoir tomber à ses pieds comme un arrêt flétrissant, ne perd plus le temps en délibérations inutiles, et se munissant à la hâte de son or et de tous ses diamants les plus précieux, elle ouvre les persiennes, éteint les phares de la mosquée, franchit le balcon de son appartement, et au moyen d'une échelle composée de quelques ceintures de cachemire et de filets de soie, appelées vulgairement bayadères, placées d'avance par les trois jardiniers français, avertis dès le matin de se tenir prêts à tout événement, elle se trouve d'un saut léger dans les jardins du Cadi. Passés tous quatre par-dessus les murs, tout escarpés qu'ils sont, s'embarquer à quelques milles de là sur un esquif, rentrer dans la Turquie par la Méditerranée, gagner la Syrie, l'Arizda, Bagdad, Raguse, Samarcande, aller d'Asie en Europe et revenir d'Europe en Asie, afin de mieux déjouer les tentatives qu'aurait pu faire son souverain pour la rejoindre et l'arrêter, fut pendant quelque temps l'unique objet de notre belle Asiatique, jusqu'au moment où, voyant sa liberté tout à fait en sûreté, elle conçut le projet d'aller se fixer à Trébizonde. Elle s'y rendit donc dans un magnifique palanquin avec une suite nombreuse d'esclaves et de chameaux achetés à Ormus, s'annonçant pour la sœur d'un puissant émir d'Arménie qui voyageait pour son agrément. Et arrivée dans cette ville, elle congédia par prudence les trois jardiniers français qui se retournèrent en Europe comblés de ses largesses. Pendant quelques mois, Talmir, en quelque sorte ivre de respirer l'air de la liberté, ne pouvait pas imaginer de plus grand bonheur que celui d'en jouir. Échappé habilement au fer doré d'un maître galant, sa félicité lui paraissait complète au sein de ses richesses. Et si elle pouvait encore former quelques vœux, c'était de trouver un homme digne de ses affections. Elle était dans cet état d'esprit quand elle vint à être instruite qu'Olmasis Kibsan, n'ayant cessé de la poursuivre à outrance, avait découvert ses traces à l'aide des informations prises par le divan de province en province, ensuite par les imans et les agas, et de se proposer rien moins que de lui faire porter par un de ses soudards le fatal lacet, ou bien de la poignarder lui-même pour la punir de son infidélité. On sait à cet égard que les grands en Turquie et en Asie ont droit de vie et de mort sur leurs esclaves, et que plus d'une femme du sérail s'est vue plonger un fer homicide dans le sein sur le plus léger soupçon d'inconstance. Dans certains gouvernements de la barbarie d'ensevelir la coupable dans un sac, de faire tomber sur elle une grêle de coups jusqu'à ce qu'elle expire, et ensuite de la jeter à la mer. C'est également l'usage des Égyptiens au Grand Caire et à Alexandrie pour le supplice de leur vestale prévaricatrice. Talmir, en apprenant donc les cruelles intentions d'Olmasis Kibsan, devint furieuse. Son caractère, porté naturellement au romanesque, s'était singulièrement développé depuis son évasion. Les dangers du voyage, la bizarrerie de ses destinées, lui avaient persuadé à elle-même, comme par une inspiration prophétique, qu'elle était née pour une certaine célébrité, et loin de vouloir s'humilier de nouveau par une prompte fuite, elle ne songea qu'au plaisir de savourer une vengeance complète sur l'homme qui, depuis son enfance, la poursuivait avec tant d'acharnement. Le massif Gibson, de son côté, ne laissait pas d'hésiter. Enverra-t-il le mortel cordeau à l'objet charmant que son cœur adore? Fera-t-il périr tant d'attraits à la fleur de l'âge? Et n'aura-t-il indiqué un moyen sûr de se conserver tous les charmes d'une jeune vierge, pure comme un beau lys, que pour la faire descendre au tombeau d'une mort violente? Balmacis aurait pu s'épargner ses diverses inquiétudes, car Talbir était bien déterminé à ne céder d'ailleurs qu'au nombre des assassins et à employer tout son génie pour se venger de son tyran d'une manière éclatante. Dissimulant donc tous ses ressentiments, elle fait passer à Olmassis un tendre message par lequel elle feint d'exprimer le repentir le plus vif. Elle ne demande qu'un instant d'audience pour se justifier complètement et prouver que son cœur avait plus de part qu'on ne pense à sa fuite. Olmassis, trempé par ce faux abondement, suspend son jugement. Et toujours possédé du désir de tenir dans ses bras cette beauté rebelle, sauf à la punir ensuite pour l'honneur de son rang, de sa dignité et du respect du haut-loi du sérail, il se rend chez elle incognito. Cependant, il se munit à tout événement d'une petite lame d'acier avec laquelle les grands de la Turquie, de leur seule autorité, coupe le nez et les oreilles à leurs maîtresses lorsqu'elles sont infidèles ou fugitives. Talmir est instruite de cette terrible circonstance par un jeune aga de la suite du prince qui prenait le plus vif intérêt à elle. À sa vue, Talmir, voluptueusement étendue sur un sofa, dans un réduit enchanteur et embaumé des parfums exquis qu'exhalaient plusieurs cassolettes enflammées, sut dissimuler toute l'horreur que lui inspirait son tyran. Son seul but était de captiver ses sens. Elle feignit la tendresse, l'abandon, sut faire couler de ses grands yeux bleus les plus belles larmes, et par un art bien aménagé, découvrant une partie de son sein d'albâtre sur lequel flottaient quelques tresses de cheveux en désordre, écartant voluptueusement sa simarre et laissant voir une jambe dont Terpsichore eût été jalouse, Talmir, l'astucieuse Talmir, acheva de porter dans tous les sens d'Olmassis le feu brûlant des désirs. Ce n'est plus l'orgueil de son amour méprisé, ni la fuite d'une houri criminelle qui occupe ses esprits enchantés. L'unique félicité de posséder tant d'attraits et d'être le premier qui rompra les raies de la pudeur anime l'amoureux Cadi. Et la belle Talmir voit enfin son propre juge à ses genoux. D'abord, elle flotte dans ses sentiments. Elle se sent en secret désarmée par tant de galanterie et de protestations d'amour. Mais bientôt, réfléchissant qu'un seul moment d'imprudence et de faiblesse peut compromettre et sa liberté et même sa vie, elle n'hésite plus. Et profitant des demi-jours qui régnaient dans son boudoir, elle tire un poignard caché dans les plis de sa simarre et le plonge dans le sein d'Olmassis, qui rend aussitôt le dernier soupir en maudissant Talmir et son peu de pénétration. Le jeune aga qui gardait les portes accourut au cri de son maître, mais loin de prétendre dénoncer notre héroïne, dont il se trouvait complice à quelques égards par l'avertissement secret qu'il lui avait donné, il ne fit que la seconder dans les moyens de fuir de nouveau avec promptitude, d'autant plus que l'amour depuis longtemps entrait pour beaucoup dans sa conduite. Ce jeune aga fut d'avis qu'il fallait, avant de s'éloigner, trancher la tête du prince, le dépouiller entièrement afin qu'il fût méconnaissable. Cette opération sanglante terminée, la tête encore dégouttante de sang fut mise dans un bocal de cristal de roche. Mais pour un prodige inconcevable, du moment auquel il fut enfermé, elle devint un talisman pour la personne qui la possédait, en lui accordant le don de l'art de la nécromancie. Car à peine Talmir eut-elle serré cette tête dans ses coffres, qu'elle vit se dérouler devant ses yeux étonnés le tableau de l'immense avenir. Elle n'y aperçut pas avec chagrin que l'aga devait être son amant, mais quelle chaîne d'événements prodigieux elle vit se déployer à tous les points reculés de son imagination. De longs voyages, des dangers de toute nature, de l'élévation, de la misère, des plaisirs et des vicissitudes sans fin. C'était en un mot l'esquisse entière de la journée de la vie. Et par un effet singulier, si elle pénétrait dans les choses futures, elle ne pouvait se soustraire aux calamités qui devaient un jour peser sur elle-même. Son départ de Trébizonde avec l'aga, désormais son inséparable, car sa secrète passion avait été accueillie, fut prompt, et se fit pendant la nuit même du meurtre d'Omasis Kipsan. Ils parcourent d'abord ensemble une partie de la Russie, de la Lituanie, de la Livonie polonaise. Puis, consultant le bocal enchanté, Talmir y apprit que les destins y avaient ordonné qu'elle se rendrait sur les frontières de la Dalmatie, que, par une autre bizarrerie, elle y perdrait toutes ses richesses dans un enchaînement de malheurs, que son jeune et cher aga serait tué par des Tartares errants, et qu'enfin, par une loi plus étrange du fatalisme, elle se verrait vivandière d'un régiment de hussards hongrois, l'Autriche étant alors, comme nous l'avons dit dans le commencement de ses feuilles, en guerre avec le grand vizir. Talmir fut confondu du tableau de tant d'adversités successives. De toutes nos infortunes, la plus grande est celle que nous savons devoir nous arriver. Souvent, elle vint à se repentir de son audacieux assassinat, lui attribuant tous ses malheurs. Souvent aussi, elle voulut jeter dans un fleuve ou ensevelir dans la terre la tête funeste, cause de tous ses revers prédits. Mais lorsque d'une main tremblante elle essayait de tirer du bocal cette belle tête, un bruit affreux, comme celui d'une cataracte souterraine, se faisait entendre. Des hurlements horribles partaient des lèvres ensanglantées d'Olmasis, et ses yeux lançaient de brûlantes étincelles. Il en était de même si Talmir tentait de cacher dans les entrailles de la terre ce terrible talisman. Une flamme volcanique s'en échappait, et toute la nature lui disait, dans le langage de ces divers phénomènes, qu'elle était condamnée par le sort à traîner avec elle le poids douloureux de son homicide. Ce n'était pas tout. Son sommeil, incessamment troublé par les images les plus épouvantables, ne lui amenait plus, dans de continuels cauchemars, que l'aspect de tête tranchée dont les artères faisaient jaillir le sang sur sa couche, de criminels empalés, de roues d'échafaud, et ce cri continuel, sans cesse répété à ses oreilles par la bouche même d'Olmasis Kipsan, « Tu seras pendu dans un camp de hussards hongrois. » En effet, toutes les prophéties se réalisèrent. Son cher aga fut assassiné sous ses yeux, dans une forêt de la Pologne, par une bande de Tartares vagabonds. Elle-même, dépouillée de tout son or, au milieu des ténèbres de la nuit, n'échappa que miraculeusement au fer des meurtriers. Et par une bizarrerie dont on ne peut attribuer les effets qu'à la vengeance divine, de tous ses trésors, de tous ses habillements magnifiques, le seul objet qui lui resta fut cette tête de présage sinistre qui roulait à ses pieds dans un étui de cristal au milieu de la confusion du pillage, semblait s'attacher à tous ses pas comme une ombre sanglante et prétendait dans sa fidélité affreuse s'associer pour toujours à la vie et à la mort de Talmir. Lorsque le petit jour vint éclairer son désastre et qu'elle ne vit, étendue sur la terre et baignée dans son sang, que le corps percé de 1000 coups de son cher aga, ainsi que tous ses gens massacrés, notre bohémienne s'arracha les cheveux, déchira ses vêtements, et dans sa fureur, voulant repousser loin d'elle la tête parlante, cause de tous ses malheurs, d'un coup de pied elle chercha à la jeter parmi des arbustes. Mais par un autre prodige, le bout de son pied se trouve pris entre les dents de cette tête qui ne lâche sa proie qu'après y avoir laissé les marques les plus douloureuses. Il faut donc que Talmir se résigne à porter dans une espèce de havre-sac qu'elle se compose de quelques débris oubliés par les brigands, ce farfadet cruel qui a juré sa ruine. D'abord, transie de froid, elle s'achemina vers un hameau où des paysans daignèrent lui donner l'hospitalité. Là, elle se mêla parmi des hussards impériaux qui, la trouvant jolie, lui offrirent de la prendre dans leur escadron comme vivandière. Talmir, dans son état de misère, ne pouvait mieux faire que d'accepter, bien qu'il ne laissât pas de gémir en secret et de voir les prédictions fatales se réaliser, et le spectre d'une horrible potence s'approcher de plus en plus, et ne pas quitter un instant sa triste pensée. Les officiers de hussards consultés consentent à l'admission de Talmir en qualité de vivandière. Sa beauté aplanit toutes les difficultés. Le colonel lui achète une voiture à 2 chevaux. Le corps des officiers lui fournissait des provisions de toute espèce. Une vaste cantine est établie et notre héroïne se voit en peu de temps une des plus riches vivandières de l'armée. Parlant facilement plusieurs langues, pinçant du sistre, de la mandoline, et enfin ornée de tous les agréments d'éducation qu'on reçoit au sérail, est le charme ce qu'il y a de plus distingué en officier supérieur, et plusieurs parties lui sont même offertes. Mais ce bonheur n'était que superficiel. Les visions effrayantes de la nuit ne cessaient pas, et l'ombre sanglante d'Olmassis la persécutait plus que jamais. En vain avait-il eu recours aux diversions les plus singulières. Le charme ne perdait pas un instant de sa force et de sa ténacité. « Mais essayons, se dit-elle, de faire tout à fait la pythonisse, la bohémienne. » Et forte de l'enchantement que je possède déjà, acquérant en peu de temps une fortune colossale, en tirant de cette manière un riche parti de ce qui cause mes mortels chagrins. En effet, Talmir étonne toute l'armée par sa pénétration. A-t-elle annoncé aux généraux à revers? Ils ne se réalisent que trop, et les troupes autrichiennes battues sont obligées de se retirer dans la plus grande confusion. Ces inspirations magiques lui prédisent-elles une victoire éclatante? Admise au conseil, elle règle les dispositions du combat et les lauriers couronnent toutes ses prophéties. C'est donc pour l'armée de l'empereur, tantôt un ange céleste, tantôt un génie infernal, qui dispose des destinées et qu'on n'approche plus qu'avec le respect du fanatisme. Un soir que le colonel du régiment de hussards, dont nous avons déjà fait mention, vint visiter la cantine de Talmir pour lui faire sa cour. « Oh, je vous attendais, cher colonel !» lui dit-elle, à peine y était-il entré, et même sans l'avoir aperçu. « Mes cartes, que je consulte en ce moment, me disent que vous irez à la découverte dans la nuit de jeudi prochain avec un de vos escadrons et que vous vous trouverez surpris par un parti de cavalerie turque et que vous et tout votre monde périrez dans cet échafouré. » Le colonel ne fit que rire de cet avis, en observant galamment à Talmir que si elle avait prédit qu'il la trouverait toujours charmante, il n'eût pas douté un instant de la prophétie, mais que, pour les cartes, il n'y accordait aucune confiance. Cependant, la nuit du jeudi arrivé, notre colonel se trouve commandé de service à l'effet de pousser une reconnaissance au-delà de ses grands gardes, bien que ce ne fût pas son tour. Mais l'officier supérieur, qui devait marcher, s'étant trouvé indisposé, il avait fallu qu'il le remplaçât. La nuit était très obscure et permettait peu de distinguer les objets. À peine s'est-il donc engagé dans un bouquet de bois qu'il voulait fouiller, qu'il se voit assailli par un gros de Turc qui font de lui et de sa troupe un massacre horrible et ne laisse pas un seul des hussards échapper au carnage. Notre colonel lui-même, nageant dans son sang, criblé de blessures graves, se sent enveloppé des ombres du trépas et n'entr'ouvre la paupière qu'au premier rayon de l'aurore. C'est alors qu'il se voit parmi les cadavres de tous ses soldats, et pour comble d'horreur, un musulman d'une taille gigantesque était occupé sur ce champ de bataille à trancher avec son dama les têtes des morts et même de mourants, ce qu'il faisait par la raison que lorsque les Turcs sont en guerre avec les Autrichiens, l'usage dans leur armée est de donner un sequin par tête de chrétien. Ainsi l'autre musulman, avide d'or, emplissait de têtes refoulées les unes sur les autres un sac déjà très volumineux, et se dirigeant vers le colonel, il se disposait à le décoller, lorsque celui-ci, épouvanté du nouveau danger qu'il courut, rassemble toutes ses forces et se levant sur son séant, supplie en langue turque qu'il parlait un peu le musulman de lui accorder la vie et de se borner à le faire son prisonnier. D'autant plus qu'il gagnerait davantage puisqu'il lui promettait de lui assurer une pension de 1000 sequins sur ses propriétés dans le Tyrol. Mais l'affreux musulman n'entend rien à ce langage. Un seul sequin de suite, à ses yeux, vaut mieux que 1000 dans 2 jours. Il se dispose donc de nouveau à faire sauter la tête de l'infortuné colonel. Mais celui-ci, trouvant une nouvelle vigueur dans son désespoir, a su se saisir d'un lourd manteau barreau d'acier dont les Turcs se servent pour charger leurs espingoles et qui pendent à leur dolman, et en assénant un coup terrible au front de son ennemi, il l'étourdit et l'étend sur le carreau. Puis s'emparant à son tour du fatal dama, il le plonge à plusieurs reprises dans le sein du musulman. Cette victoire remportée, il ne cherche plus qu'à se traîner vers les postes avancés de l'armée autrichienne. Un piquet de hussards, de Barkos et de Uhlan, étant alors à la découverte afin de recueillir des nouvelles des escadrons qui s'étaient mis en marche pendant la nuit, venant à s'apercevoir, encore vivant, parmi des monceaux de cadavres, le recueillirent et le placèrent sur un de leurs chevaux. Ses blessures n'étant pas mortelles, il se rétablit en peu de temps. Mais la prédiction de Talmir n'était pas sortie un instant de sa pensée, et peu disposé à croire à la magie blanche ou au sortilège, il ne douta plus que quelque stratagème criminel n'eût manqué causer sa perte. Rentré au camp, il prend avec le plus grand mystère toutes les informations possibles, et puis avec soin toutes les actions de la bohémienne de Trébizonde, et découvre enfin que, pour s'enrichir plus promptement et tâcher de rentrer en Turquie, elle a su entretenir des intelligences secrètes avec l'ennemi, qu'elle a vendu maintes fois les positions de l'armée, et dispose ainsi par ses coupables rapports des triomphes ou des défaites des Autrichiens. Quant à ce qui le regardait personnellement, Talmyre, voulant le perdre, avait su donner un breuvage malfaisant à l'officier qui devait être de service dans la fatale nuit de ce jeudi, ce qui avait obligé notre colonel de prendre sa place dans la mission. En outre, les Turcs, ayant été avertis à temps de l'expédition projetée, avaient triplé leurs forces sur le point que les hussards devaient parcourir, et toute cette combinaison, enfin, avait été cause du désastre que nous avons décrit. Dans cet état de choses, le colonel étant parvenu de ses premières conjectures à acquérir des certitudes, avait provoqué la mise en jugement de Talmyre, qui, bientôt convaincu du crime d'espionnage, fut condamné à être pendu en face même de sa cantine. En vain eut-elle recours à la magie de son bocal de cristal. Elle ne trouva à la place de la tête d'Olmassis qu'une potence ensanglantée au de laquelle pendait un lacet trop significatif. En effet, elle fut exécutée peu d'heures après son jugement, en maudissant sa destinée. C'est ainsi que périt la bohémienne de Trébizonde, en subissant la peine due à sa perfidie.